Attention, le balado que vous vous apprêtez à écouter contient les meilleures histoires que vous n'avez jamais entendues. Si vous êtes sensible aux récits fascinants et perçants, veuillez cesser l'écoute du balado dès maintenant.
Trois femmes, trois histoires, trois époques, trois pays, un seul podcast. Vous écoutez l'histoire avec un grand F, un balado fantastique façonné par des femmes qui sont élèves à l'école Horizon Jeunesse et animé par Justine Picard-Lalonde, Raphaël Larose et Dahlia Gendron. Commençons avec l'histoire de Sophonisba Anguissola. Donc, cette jeune demoiselle naît dans une famille de la noblesse italienne en 1532. Son père, un humble et brillant humaniste de l'époque, apprend à ses enfants la lecture, le dessin et la musique.
Mais Justine, c'est quoi un humaniste?
C'est un type de philosophie qui se questionne sur l'homme. Quelques années plus tard, Sophonisba et sa sœur Elena vont aller étudier les techniques de peinture et pouvoir développer leurs propres compétences auprès du peintre Bernardino Capri, puis par la suite avec le peintre Bernardino Gatti. Au cours de ses études, elle va rencontrer le célèbre Michelangelo, qui lui donnera des conseils et son avis sur ses œuvres pour qu'elle progresse.
J'ai déjà entendu le nom Michelangelo, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie?
Il est peintre. En fait, il a peint le plafond de la chapelle Sixtine en Italie, et c'est notamment pour ça qu'il est célèbre. Donc, lorsqu'elle va terminer ses études, Sophonisba va avoir les mêmes connaissances à ce moment-là que certains artistes hommes de la Renaissance. La Renaissance, qui est une période historique. Ce qui est fou pour l'époque, puisque les femmes ne recevaient pas un tel niveau d'éducation dans ce domaine-là. Mais un jour, elle va faire une rencontre déterminante dans sa vie. Elle va croiser le duc de Sessa, qui est un gouverneur espagnol, qui va être charmé par ses œuvres et ses autoportraits, puisque oui, elle se spécialisait principalement dans les portraits. Donc ce gouverneur va en glisser un mot au roi Philippe II, et c'est comme ça que Sophonisba va faire son entrée à la cour d'Espagne. Elle devient officiellement la dame de compagnie de la reine et lui donne des cours de dessin et de peinture, en plus d'être la portraitiste officielle de la famille royale. Maintenant, parlons un peu de son art et de ses techniques. Ses peintures sont très réalistes et on le disait qu'elle était très prodigieuse parce qu'elle ne suivait pas la mode de son époque et réussissait parfaitement à rendre justice à ses modèles. Bref, son rôle d'enseignante et de peintre lui a permis de développer une grande relation d'amitié avec la reine et ça va beaucoup l'affecter plus tard lorsque celle-ci va mourir en 1568.
C'était quelle reine exactement?
C'était la reine Élisabeth de Valois, reine d'Espagne. Pourtant, le roi va lui demander de rester et de l'aider à élever qu'elle a contribué à instruire les princesses d'Espagne, Isabelle Claire Eugénie et Catherine Michel. Grâce à son passage à la cour, ça va lui permettre de devenir aucune autre femme artiste avait pu obtenir un tel rang. Alors, on est toujours en 1568 et Sophonisba a 36 ans. Et elle est non mariée, ce qui suscite énormément de commentaires, en plus qu'une femme artiste s'est très mal vue à l'époque, du diable en personne. Rien de moins.
Mais Justine, pourquoi est-ce que l'Église était tellement contre les femmes seules?
En fait, l'Église à ce moment-là était très fermée d'esprit et surtout sur la cause des femmes. Mais tout de même, elle va finir par se marier une première puis une deuxième fois. Elle eut un reste de vie simple et s'installa dans sa ville natale pour y finir sa vie. Elle mourut à l'âge de 93 ans, avec un bagage extraordinaire qu'elle laisse derrière elle. Mais au début, seuls ses autoportraits et les œuvres qu'elle a peintes à la cour sont reconnus comme ses œuvres officielles. Puisqu'en tant que femme, elle ne pouvait pas signer elle-même ses œuvres. Tort qu'on lui attribua l'entièreté de ses œuvres, qui avaient à la base été attribuées à des hommes. Et c'est sans doute pour ça qu'on a si peu d'informations sur elle aujourd'hui et qu'elle est un peu tombée dans l'oubli après sa mort. Mais son talent ne peut pas être inventé personne d'autre que par elle-même. C'est pour ça qu'à sa mort, on grava sur sa tombe à Sophonisba, une femme des plus illustres au monde, de par sa beauté et ses extraordinaires capacités naturelles, si distinguées dans la représentation de l'image humaine que personne de son temps n'a pu égaler.
Le 24 janvier 1864 est née Marguerite Durand. Elle est née hors mariage, ce qui était très mal vu à l'époque. Son père, un colonel de l'armée française, ne s'est jamais marié avec la mère de Marguerite, Anna Durand. Anna a dû élever ses enfants seule, ce qui n'était pas facile à l'époque. Elle trouvait de l'argent en écrivant dans certains journaux sous des pseudonymes, car elle ne pouvait pas nécessairement publier des choses en tant que femme, vu la société dans laquelle elle vivait. En même temps, elle écrivait un livre sur plusieurs femmes célèbres, mais qui reste inachevé à ce jour, à cause de sa mort en 1911. Retournons maintenant à Marguerite. Elle fut élevée dans le couvent des Dames Trinitaires, une institution religieuse qui est à Paris, puis poursuivra ses études au conservatoire, une école de théâtre ainsi que de musique, où elle gagnera le premier prix pour ses talents d'actrice en 1880. Elle devient ensuite actrice pour les 8 prochaines années.
C'est quoi exactement les pièces qu'elle a fait durant ces années-là?
Britannicus, Phèdre, La Coupe Enchantée et Les Corbeaux. Elle devra arrêter sa carrière lors de son mariage avec Georges Laguerre, un avocat. Elle travaillera en tant que journaliste pour le journal La Presse, dont son mari était le directeur.
Je connaissais La Presse, c'est là que je lis tous mes journaux.
Non, malheureusement, ce n'est pas La Presse du Québec, mais bien La Presse en France, à l'époque, en 1880. Elle divorcera en 1895 avec un accord commun. Après s'être divorcée, elle se trouvera un compagnon, mais ne se remariera jamais. Elle eut un enfant en 1896, qu'elle éleva comme sa mère avant elle, seule. L'année d'après, elle fonda le journal La Fronde, qui est complètement géré par des femmes. Une des femmes qu'elle recrutera fut Séverine, son amie, qui était aussi la plus grande femme journaliste de l'époque, première féministe en France. De 1897 à 1903, le quotidien a en moyenne 50 000 lecteurs. Leur but n'est pas d'être anti-homme, mais veut simplement que la femme soit considérée comme un citoyen avec les mêmes droits que les hommes. Le journal écrit plusieurs articles pour la reconnaissance des femmes dans la société et veut dénoncer non pas l'homme, mais des actes de guerre, de tyrannie et d'abus. Il ne veut surtout pas que la femme soit vue comme supérieure. Marguerite était, oui, connue pour avoir fondé cette incroyable organisation, mais aussi pour avoir un animal de compagnie hors de l'ordinaire. Et oui, elle ne se balade pas avec un simple chien comme tout le monde. Ses petites promenades du matin se faisaient avec Tigre, sa lionne domestiquée. Vous pourrez d'ailleurs trouver plusieurs photos sur Internet de Marguerite qui se promène dans les rues de Paris, accompagnée de sa lionne. Marguerite était pour la cause animalière. Elle a d'ailleurs cofondé un cimetière animalier. Elle s'est aussi, en 1910, impliquée dans la politique en posant sa candidature aux élections législatives, mais s'est malheureusement fait refuser. Avec cela, elle dit, et je cite, « Si nous ne comptons pas, pourquoi nous compte-t-on? »
Ça veut dire quoi exactement?
Ça veut en gros dire que oui, la société voit la femme comme un être humain, mais elle ne compte pas vraiment comme un citoyen, pas encore le droit de vote. Elle est décédée à Paris en 1936. Quelques années après sa mort, fut fondée à Paris la bibliothèque Marguerite Durand, une bibliothèque remplie de livres sur différentes femmes et sur le féminisme. Je vous invite donc à aller la visiter.
Je vais maintenant vous parler d'Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt est une femme franco-colombienne. Elle est née le 25 décembre 1961 à Bogota, en Colombie. Sa mère, Yolanda Poletio Vélez, est une sénatrice, ambassadrice, députée. Celle-ci était très impliquée dans la politique colombienne, à ce que l'on peut voir. Son père, Gabriel Betancourt Mejía, a été ministre colombien de l'éducation, sous-directeur de l'UNESCO et même un ambassadeur de la Colombie en France. Ingrid avait une relation très forte avec son père. Il a été une grande source d'inspiration pour elle tout au long de sa vie et surtout pour sa carrière politique. En effet, quand elle était jeune, ses parents invitaient souvent des amis pour discuter, surtout de politique. Un soir, elle se cachait sous un piano et a entendu son père discuter avec un de ses amis de la situation politique de la Colombie et à quel point elle était désastreuse. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé qu'elle allait faire un changement. Et elle reste en contact avec sa mère, qui lui parle souvent de la Colombie. Après avoir fini ses études en sciences politiques, elle retourne en Colombie pour voir sa mère, qui l'attendait avec impatience. Elle va voir vraiment d'elle-même à quel point les rues sont misérables, les gens vivent dans la misère et tous les problèmes de politique et de drogue qui circulent. Elle va décider de faire un changement et en 1994, elle va se présenter aux élections pour le Parti libéral. Elle va employer une technique plutôt hors du commun pour rassembler des votes. Est-ce que vous savez ce qu'elle va faire?
Non.
Elle va distribuer des condoms aux gens. Elle va leur donner des condoms. Et elle va dire que la corruption, c'est comme des maladies transmises sexuellement. Alors, quand elle leur remet les condoms, elle dit « Utilisez ça pour vous protéger contre les maladies et votez pour moi pour vous protéger de la corruption. » Et ça a marché. Elle a eu un nombre phénoménal de voix pour elle et elle a été élue. Elle va rester avec le Parti libéral de 1994 jusqu'en 1998 où elle va réaliser qu'ils ne vont pas vraiment suivre leurs règles. Ils ne vont pas faire ce qu'ils disent qu'ils vont faire et pour elle, ça va contre ses morales. Elle décide donc de le quitter. Elle va fonder son propre parti en 1998, le Parti Oxygène, et y rester jusqu'en 2001. Elle va renoncer son siège au Congrès et commencer des manœuvres pour atteindre la présidence de la République en 2002. Malheureusement, c'est le 23 février 2002 qu'Ingrid sera prise en otage par la FARC.
Qu'est-ce que c'est la FARC?
La FARC, c'est les Forces armées révolutionnaires de la Colombie. C'est un groupe terroriste qui va beaucoup intervenir avec la politique en Colombie. Et dès que tu vas dire quelque chose qu'ils ne seront pas d'accord avec, t'es juste vraiment en danger. Ils vont te kidnapper, ils vont te torturer. C'est un gros problème et ça rend les gens vraiment dans un état de panique constant. Donc Ingrid, elle est kidnappée et va être détenue dans la jungle pendant 6 ans. 6 ans où est-ce qu'elle va pas voir sa famille, ses amis, elle sera pas libre. Mais elle va quand même avoir un peu d'espoir parce qu'elle aura quand même certains contacts avec le monde extérieur. Tous les matins, sa mère lui faisait un message à la radio et Ingrid entendait ce qu'elle disait. Elle entendait que les gens allaient dans les rues pour manifester pour elle, que les gens demandaient qu'elle soit libérée. Et c'est grâce à ça qu'elle va rester forte pendant toutes ces années. C'est le 2 juillet 2008 qu'Ingrid sera enfin libérée lors d'une intervention par l'armée colombienne. Elle va enfin retrouver ses enfants, Mélanie, Lorenzo et Sébastien, et toute sa famille qui l'attendait. Elle va avoir écrit plusieurs livres suite à ces événements qui vont parler de sa carrière politique, de sa vie, de ce qu'elle a vécu. Donc, certains de ces livres sont « Même le silence a une fin »,« Lettre à maman »,« La rage au cœur » et « La ligne bleue ». C'est Justine qui a eu « La rage au cœur », donc Justine, qu'est-ce que tu en as pensé?
Pour vrai, je trouvais ça vraiment intéressant, puis c'est notamment pour ça que je t'ai suggéré ce livre-là.
Ben merci Justine alors, et j'espère que vous avez beaucoup aimé ce récit sur Ingrid Betancourt. Autant dans le domaine de la politique, du journalisme que de l'art, Ingrid, Marguerite et Sophie Nisba ont fait des choses hors de la norme pour leur époque. Les choses qu'elles ont réalisées ont fait avancer la cause des femmes partout à travers le monde. Je tiens donc à remercier mes collègues Myriam Jobin au son et au bruitage, Grace Augustin au montage, ainsi que Joe et Eric pour nous avoir aidés à la réalisation du balado. Je veux aussi beaucoup remercier Justine et Raphaël à l'animation. Vous avez écouté L'Histoire avec un grand F, un podcast des élèves d'Horizon Jeunesse.